Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 24 de la première saison de votre émission favorite, nécessairement une heure en série tous les samedis à partir de 20h, une émission qui chaque semaine décrypte et analyse l'actualité des séries télé et qui, en un mot commençant, sauve vos soirées télé. Oui, soyons un peu modestes. Cette semaine dans une heure en série, fracture israélo-palestinienne et polar politique dans Our Boys sur Canal+, mythologie nordique et menace climatique au pluriel dans Ragnarok sur Netflix, mais je pense que Benoît tout à l'heure nous expliquera comment le prononcer très précisément. Et enfin, recherche de la mère et quête du père dans Il a déjà tes yeux sur France 2.
Une heure en série. Xavier Le Herpeur.
Chouette bande autour de moi aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Avakaen Frenchmania, ravi de vous retrouver régulièrement. Avakaen Frenchmania, bonjour. Salut, cher Ava, ravi de vous retrouver. Ariane Allard, de Cosette, nécessairement, bonjour, et de Positif. Bonjour Ariane. Et vous le savez déjà, mais ça n'était pas une surprise puisqu'il est avec nous chaque semaine, Benoît Lagane, et que vous pouvez également retrouver à 5h53 le vendredi dans le 5-7 de Mathilde Munot.
Bonsoir Xavier.
Il opine du chef d'un air comme ça, très sentencieux. Alors, où pourriez cette semaine, peut-être me suis-je trompé la semaine dernière en vous appelant à voter pour vos séries préférées, mais quelqu'un me demande pourquoi, s'il vous plaît, la série étrangère devrait être obligatoirement américaine. Il ne me semble pourtant pas avoir fait la confusion, mais peut-être l'ai-je fait. Et je m'en excuse bien évidemment, non, série française et série étrangère, évidemment, anglaise, américaine, nordique, danoise, bien évidemment, espagnole, italienne, mexicaine, toutes les nationalités Brésil, ah, ça me rappelle quelque chose, oui. Allez, vous garçons, vous voyez bien comme ça, le ressac, le bord de la mer, les fins de soirée, enfin bon, bref. Donc, évidemment, vous avez le droit de voter pour toutes les séries. Je vous ai simplement demandé de distinguer votre série française préférée et votre série non française. Voilà, je crois que ça va être aussi simple que cela. Préféré, on a déjà eu quelques votes et il y a de très belles propositions, mais nous verrons cela tranquillement dans le courant du mois de mars. Il est temps maintenant de lancer, eh bien, les festivités et peut-être les hostilités avec le premier débat. Non, je crois que celui-ci sera relativement unanime. Our Boys sur Canal+, série israélienne, l'exemple même donc de la non-américanisation des séries étrangères. 10 épisodes inspirés d'une histoire tragiquement vraie. Juillet 2014, 3 lycéens israéliens sont kidnappés. Malgré les appels à leur libération et les prières qui se multiplient dans le pays, les corps sont retrouvés 18 jours plus tard. La rue ne réclame pas justice, elle crie sa soif de vengeance et de sang, elle l'obtiendra. Quelques jours après ce premier drame, le corps de Mohamed, adolescent palestinien, est découvert brûlé vif. Est-ce un crime commis au nom de la loi du talion ou au contraire, comme le suggèrent les premières investigations, un meurtre gratuit, haineux, voire d'honneur, dernières hypothèses qui évidemment arrangeraient tout le monde, mais l'enquête débute à peine que déjà les jeunes Palestiniens se soulèvent, c'est l'escalade tant redoutée et Gaza s'embrase.
אפשר, אין לנו מספיק חומר.
יש מלא חומר.
לא בשביל מעצר.
תביא לי את הכיפה שלך.
שבת שלום, יהודי.
שבת שלום.
האם הקדוש ברוך הוא פועל דרכנו ובעולם בלי לשאול אותנו?
אני משקוע את סייאסי.
Une série décriée par Benjamin Netanyahou qui, en pleine campagne électorale, l'a ouvertement qualifié d'antisémite, lui reprochant de ne prendre parti que pour la seule douleur des familles palestiniennes, ce qui est quand même archi faux, le type n'a jamais regardé la série, a priori, et de ne pas être assez favorable au rôle du gouvernement israélien, qu'il dirige évidemment à l'époque. Enfin, en même temps, il est au pouvoir depuis 150 ans. Donc, une série... Pour ma part, à la mécanique de suspense et à la minutie de reconstitution imparable, créée pour Channel 12. Alors, il faut dire que Channel 12, en Israël, c'est une chaîne peu favorable au Premier ministre actuel, ce qui explique peut-être aussi les attaques. Et HBO, elle a été créée par Agai Levy, co-créateur de la série The Affair, Joseph Seda, auteur au cinéma du film Footnote, et de l'auteur arabo-israélien Tofik Abou Vael, qui a réalisé au cinéma en 2011, Dernier jour à Jérusalem. Et avec dans le rôle principal de Shimon, qui est l'enquêteur. Shlomi Elkabetz. Elkabetz, ça dira peut-être quelque chose aux cinéphiles, puisque c'est le nom de la très regrettée Ronit Elkabetz, avec laquelle c'était son frère, voilà, avec laquelle il avait travaillé et réalisé des films absolument magnifiques comme Prendre femme. Voilà. Il est comédien à part entière dans cette série, qui pour moi est vraiment un des événements de la rentrée, mais peut-être allez-vous, je ne l'espère pas, me dire le contraire. Ava Kahn.
Oh ben non, je ne peux que vous donner raison, j'ai adoré. C'est une série captivante, remarquablement écrite, interprétée et mise en scène. La réalisation a des accents documentaires, c'est vigoureux, électrisant. C'est à la fois une série à suspense, une série géopolitique et une série policière. Et tout est orchestré effectivement au millimètre. 10 épisodes pour replacer sous le feu des projecteurs des événements tragiques advenus en juin 2014 qui ont conduit au conflit meurtrier de Gaza. On découvre au premier épisode un carton qui précise qu'il s'agit d'une fiction inspirée de la réalité. C'est le même principe que la célèbre Faouda, série israélienne, hyper populaire à l'échelle nationale et internationale, dont les droits ont été achetés par Netflix, et qui, comme Our Boys, est à la fois en hébreu et en arabe. Tous les épisodes sont d'ailleurs écrits à trois et signés, comme vous le disiez, de trois noms: Agai Levy, Tofik Abu Wael, scénariste et réalisateur palestinien, et Joseph Sedar, donc scénariste et cinéaste israélien. C'est une variation inédite, artistique et politique, de la conception par essence collégiale d'une série, et je trouve que c'est un geste très très fort.
Entièrement d'accord.
On est sous tension, on est au cœur de la fournaise, on voit Jérusalem coupée en deux, les esprits s'échauffaient en masse, les drames se répétaient de manière tragique. C'est l'escalade de la violence qui est cernée ici, et la série rend compte au passage avec une acuité saisissante des divisions de la société israélienne. On suit en parallèle Simon, enquêteur israélien qui est un agent de la division terroriste interne du Shin Bet, qui va tenter la mission d'infiltration au sein de la mouvance extrémiste israélienne, et le père de Mohamed, adolescent assassiné et porté en martyr par les Arabes. La série est sans concession, elle nous montre la vérité de la loi du talion, cet esprit de revanche et de vengeance des uns et des autres, qui est un terrain évidemment stérile pour la paix, l'exacerbation du nationalisme qui pousse la jeunesse à faire croisade. Bref, elle est extrêmement complexe, son regard est franc, on n'est ni dans la caricature, ni dans l'angénisme, je trouve ça ténébreux et c'est absolument passionnant, captivant.
Je bois vos paroles. Ariane, toujours chez Our Boys.
Ava a dit beaucoup, beaucoup de choses et je partage complètement son avis. Moi, je pense que c'est franchement une série magistrale pour deux raisons. Je parlerai un petit peu plus tard de la réalisation parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas toujours beaucoup. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est que c'est vrai qu'au départ, c'est une situation qui est très particulière et qui est très locale. Mais cette mécanique, en fait, ça décortique un crime de haine. Et je pense que le crime de haine, c'est aussi quelque chose, malheureusement, c'est terrible à dire, qui peut être universel. Et je pense qu'on arrive à se plonger, même si on est dans le particularisme local, parce qu'il y a des ambiances, parce qu'il y a des lumières, parce qu'il y a des personnages et parce qu'il y a une langue, il y en a deux en fait de langues.
Il y a les postes frontières, géographiquement,
malgré
c'est très
tout, il y a une dimension universelle et c'est probablement aussi la raison pour laquelle ce conflit israélo-palestinien touche et est aussi, je dirais, sensible, quelle que soit la partie du monde que l'on habite. Voilà. C'est pour ça que aussi que je pense que c'est un sujet et un projet extrêmement pas audacieux, téméraire. Moi, je trouve de l'avoir pris à bras le corps de cette façon-là. Maintenant, j'aimerais revenir sur la. Il y a aussi la tension, je dirais presque policière, parce que c'est vraiment extrêmement bien foutu au niveau de l'intrigue, du suspense, etc.
Et même des cliffhangers.
C'est hyper tendu. Il y a une intrigue policière qui est hyper tendue.
Mais je suis curieux de vous entendre sur la mise en scène. Ouais. Parce que...
Alors, moi, la mise en scène, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même, il y a deux ressorts, on va dire, essentiels, qui sont d'abord la caméra portée à l'épaule et qui, on est au plus près des personnages. Et comme c'est une série, qui pour moi est vraiment une série compassionnelle, quels que soient les personnages, sans jamais être sentimentale, cette façon d'approcher les personnages, je pense normalement, je le dis, c'est très précis, le deuxième épisode, l'ouverture, les séquences d'ouverture autour du père de Mohamed, qui attend, qui ne sait pas ce qui est arrivé à son fils, qui est dehors, qui est dans la rue, elle est absolument bouleversante. La façon dont est filmée son inquiétude, son indécision et en même temps sa dignité, parce que c'est un personnage extraordinaire, le père de Mohamed. Tout ça, juste par le biais, la caméra lui tourne autour. C'est pas une caméra portée à l'épaule qui est fragmentée, qui est nerveuse, qui est agaçante. Non, c'est quelque chose qui tourne autour, qui l'enveloppe et qui le cerne. Moi, je trouve que du point de vue de la réalisation, c'est extraordinaire. Et la deuxième chose, parce que je termine là-dessus, c'est que c'est aussi des grands plans séquences souples, fixes, droits, dignes. La façon, par exemple, dont les policiers découvrent aussi le corps de Mohamed, c'est un plan d'ensemble qui est filmé de loin. Moi, je dis que c'est du grand cinéma. Et les séries, comme le cinéma, ce sont d'abord des formes visuelles. Et là, c'est un langage totalement visuel, bien sûr, qui nous raconte des choses denses et intelligentes et profondes, mais par le biais du montage, par le biais des lumières et par le biais des interprètes.
Benoît Lagan.
Alors moi, je suis globalement d'accord avec ce que je viens d'entendre à l'instant. Que rajouter que peut-être pour prévenir les auditeurs qui voudraient voir Our Boys, faut pas se laisser perdre par le premier épisode, peut-être un poil trop dense en termes d'informations. On nous donne beaucoup de choses par rapport au contexte, avec notamment un montage d'images d'archives comme ça au début, qui est un peu compliqué. Et donc, il faut vraiment accepter de rentrer parce qu'après, on est vraiment au plus près, comme le disait Ariane, de ces personnages. Moi, c'est ce qui m'a touché. Là, on retrouve le grand Haggai Levy, celui de In Treatment, de An Analyse, plus que celui de The Affair, par exemple. Où là, il est au plus près de la complexité psychologique de chacun de ces personnages. Donc ça, c'est vraiment réussi. En termes de réalisation, je trouve qu'il y a aussi de mise en scène cette idée de l'utilisation, comme dans beaucoup de séries en ce moment, dont on a été témoin dans cette émission, de la vidéosurveillance. Comment on utilise la vidéosurveillance? Et là, avec, non pas le piège qu'on peut souvent avoir avec la vidéosurveillance, qui permet d'avoir un tic de réalisation, qui permet de monter très vite et de voir, d'accéder au plus près d'une vérité, comme ça, grâce à ça. Là, pas du tout.
C'est un élément d'enquête.
Voilà, c'est un élément d'enquête. Et puis vraiment, moi, ce qui m'a le plus touché, c'est quand il y a ce flic qui part en infiltration auprès des familles, et où là, il y a vraiment une humanité qui se dégage, même des personnages qui, malgré l'enquête, malgré toute la tension politique que sous-tend toute cette affaire, nous touchent. Et c'est là, je pense que Ariane parle d'universalité, c'est là qu'on touche l'universel avec cette série. Et puis, vraiment, la grande question qui permet de nous faire comprendre, finalement, pourquoi ce problème israélo-palestinien dure depuis si longtemps. Parce qu'il suffit de regarder la série pour comprendre qu'au moindre dérapage, qu'à la moindre petite affaire criminelle, même parfois, tout peut partir en vrille.
Ouais. Bon, je crois que nous sommes tous unanimes. Our Boys sur Canal+ est vraiment la série non seulement de la semaine, mais du mois et peut-être sans doute de l'année. Ouais. J'ai pour moi une passion particulière pour l'épisode de l'enterrement de Mohamed, où le père voit le corps de son fils lui échapper, porté en bannière comme un martyr. Et là, il y a une détresse effectivement remarquablement appuyée et accompagnée par la mise en scène. Et je trouve que c'est un épisode sur le géopolitique et sur l'impossibilité d'une solution de paix qui est grandiose. Voilà, donc Our Boys sur Canal+.
Hey boy, what you say boy? You tryna play coy like a game boy? Hit my phone boy, is your homeboy? Are you a lone boy? Come give me dome boy. Got a boy with degrees, a boy in the streets, a boy on his knees, he a man in the sheets. Sheesh, it's all Greek to me. Got this boy speaking Spanish, ay papi. Baby, I don't need you, I just wanna freak you. I heard you a freak too. What's 2 plus 2? Mississippi boys and the city boys. I like the pretty boys with the bow tie. Get your nails did, let it blow dry. I like a big beard, I like a clean face. I don't discriminate, come and get a taste. From the playboys to the gay boys. Go and slay boys, you my fave boys.
Baby, I don't need you. No, I don't need. I just wanna freak you. I want it, man. I heard you a freak too.
That's right.
What's 2 plus 2?
Crazy!
3, 2,
ow, ay.
Ooh,
J'aime les grands garçons, les mecs tout petits, les mecs du Mississippi, les mecs des Tessis, j'aime les longues barbes, j'aime les visages propres. Je ne fais pas de distinction, viens goûter entre les playboys et les gays, faites vos affaires les mecs, c'est vous que je préfère. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est Lizzo, la chanteuse, dans cette chanson Boys, profession de foi assez profane, hein, il faut bien le dire quand même, de cette jeune chanteuse compositrice américaine qui nous vient de Détroit.
France Inter. Une heure en série.
Et c'est l'heure de l'effet miroir. Nous avons toujours un pic d'audience dans le Sud-Ouest au moment où Benoît Lagan s'apprête à prendre la parole. Ici, on l'a bien remarqué sur les courbes d'audience. Donc aujourd'hui, cher Benoît, comme il s'agit de la 24e émission d'une heure en série, vous avez souhaité rendre hommage à une série culte des années 2000, 24 heures chrono.
Oui, la série qui a marqué l'histoire du début du 21e siècle télévisuel. C'était effectivement il y a 19 ans aux États-Unis, en novembre 2001. Et quelques mois plus tard, en septembre 2001, en France, une série qui a marqué une révolution mais qui n'a pas duré que 24 heures. Il faut dire qu'au départ, pas grand monde ne croit au concept de cette série. Il suffit de revoir la première saison pour se rendre compte que les auteurs avaient même prévu, en cas de bide, une sortie possible de l'histoire à la 13e heure. Si cela avait été le cas, la série 24 aurait dû être rebaptisée 13. Bref, ça aurait été un autre concept. La révolution 24, c'est d'abord d'avoir démontré à une époque où beaucoup prédisaient la fin du feuilleton à la télévision. Et oui, que suivre une série sans loupe un seul épisode, c'était possible. Alors, petit rappel, hein, dans les années 90, on avait vu fleurir bon nombre de séries où se combinaient avec plutôt finesse des épisodes clos et des mythologies au long cours. Ce qui permettait au public de picorer au gré des séries un épisode par-ci par-là et aux plus fidèles de suivre de vraies histoires au long cours. C'était X-Files, c'était le Caméléon par exemple. Sauf que voilà, arrive à la fin des années 90 et début 2000, la télé-réalité qui vient dérégler un peu l'horloge télévisuelle avec Big Brother, qui donnera chez nous Love Story, ou Survivor, qui influencera Koh-Lanta en France. Face à cette concurrence, la série télé de Papa doit faire un choix. Soit elle se recentre sur son art de la série formule et le carton des experts montre que c'est possible et que ça marche, ou alors elle fait le choix de 24, c'est-à-dire une série où on suit chaque épisode centré sur une heure de la vie d'un personnage, en l'occurrence Jack Bauer, et que la saison raconte finalement 24 heures de la vie de ce personnage. C'est un peu Mission Impossible à la sauce Big Brother.
Et la journée de Jack Bauer avance au rythme des secondes qui défilent au fil des 24 épisode.
Et oui, et ça sonnait comme ça, souvenez-vous. Alors la principale révolution de 24, elle est donc narrative. Mais sur le plan sociétal, la série reste quand même dans cette Amérique post-11 septembre intéressante à observer. La série aurait pu être annulée suite à la tragédie du 11 septembre. Finalement, elle n'a été que repoussée. La série donc devait passer en fait fin septembre 2001, elle a débuté en novembre. Parce que le concept et la mécanique narrative addictive a permis à la série de s'imposer. Dès lors, 24 heures chrono a tendu plus ou moins consciemment un miroir sur une Amérique traumatisée par le terrorisme, et beaucoup ont souhaité y voir ici un commentaire ou une critique de la politique menée par George Bush, par exemple, en répercussion aux attentats et le besoin de l'Amérique à chercher un sauveur, un héros américain en lutte contre le terrorisme. Beaucoup ont aussi écrit sur l'usage de la torture dans 24, qui aurait banalisé pour certains, ou qui serait critiqué pour d'autres. On a aussi beaucoup écrit sur la figure du président Palmer, figure idéaliste annonciatrice de l'ère Obama. Au fond, comme tout miroir, 24 observait juste son époque et ses frayeurs. Et dans cette Amérique en guerre contre le terrorisme, finalement, avec 24 heures chrono, la télé a surtout inventé presque par accident une sorte de vraie fausse télé-réalité sur les coulisses de la lutte contre le terrorisme. Même John DeMol, le créateur de Big Brother, ne l'aurait pas inventé.
Merci beaucoup Benoît. J'ai deux questions néanmoins sur 24 heures chrono. Quelle est la marque du téléphone de Jack Bauer qui en 24 heures... il a toujours une batterie à 100%.
C'est ça.
Et comment fait-il pour ne jamais faire pipi? Moi, c'est quand même
pendant les pages publicitaires.
Ben oui, mais enfin quand même, là, il faut bien cibler. Hein. Je n'ai jamais réussi à comprendre comment ce héros pouvait sauver le monde sans se vider la vessie. C'était l'effet miroir de Benoît Lagan. À réécouter bien, aussi. Évidemment, ainsi que tous les autres épisodes, en podcast sur le site de l'émission. Vous êtes toujours sur France Inter dans une heure en série, épisode 24, avec Ava Cahen, Ariane Allard et Benoît Lagan. Et il est temps de lancer notre deuxième débat, Ragnarök, une série norvégienne en 6 épisodes, diffusée sur Netflix depuis le 31 janvier.
Je n'ai fait que révéler ce qui était déjà en toi.
Tout d'abord, j'aimerais qu'on souhaite la bienvenue à deux nouveaux élèves. Magne et Lorit, son frère. Je vous laisse vous présenter à vos camarades. J'ai un peu d'avance, j'ai sauté des classes et Magne, lui, il est doué pour plein d'autres choses.
Ce jeune homme qui vient d'arriver dans ta classe, je veux que tu gardes un œil sur lui.
Lui, c'est Fjord. C'est un Yutul, le troisième du nom.
Les géants sont toujours parmi nous. Les humains les regardent détruire le monde sans rien faire. Aucun humain n'a eu la force d'affronter ces monstres. Dis-moi qui tu es. Et vous qui êtes-vous ? La quête de notre héros est sur le point de débuter.
Magne, adolescent blond, massif et taiseux, revient à Eda, le village de son enfance, avec sa mère et son frère. Situé dans le creux d'un fjord et à quelques kilomètres d'un glacier qui fond inexorablement, Eda est un site mythologique où se serait déroulée, il y a plusieurs millénaires, la guerre entre dieux et géants. Aujourd'hui, c'est une petite ville isolée, survivant grâce au Jutul, une famille de riches industriels, famille souvent soupçonnée de malversations écologiques, mais qui n'ayant jamais été inquiétée, continue ses activités douteuses en toute impunité. Et pourtant, la nature ne cesse de se dérégler de manière inquiétante. Un drame va pousser Magne à enquêter sur les Jutul, mais en suivant cette quête de justice, il va réveiller les ancestrales légendes et découvrir sa véritable personnalité. Si j'ai gardé cette série, c'est qu'elle est signée Adam Price, le créateur de Borgen et de Au nom du Père. On a fait quand
c'est
même pire
rien.
Comme carte de visite. Ariane Allard, avez-vous succombé au charme de ce dieu adolescent ?
Ben écoutez, lentement mais doucement, je dirais que c'est plutôt une bonne surprise en fait. Moi
d'accord.
J'y allais un peu à reculons, honnêtement, ça fait un petit moment que je ne suis plus adolescente. Donc les séries adolescentes, voilà. C'est vrai qu'elles s'installent, on va dire, de façon assez basique cette série au départ. Tout converge vers un lycée, comme dans toutes les bonnes séries américaines ados, ce qu'on appelle les teen dramas.
Il y a un petit côté Riverdale, d'ailleurs,
voilà,
avec une famille de puissants.
Une famille de puissants. Et puis, au lycée, tous les personnages sont un peu archétypaux. Donc, il y a le beau ténébreux, il y a la chippie, mais très très jolie. Il y a aussi la jolie, mais intelligente. Il y a la outcast, il y a le garçon un peu ironique, un peu gender fluide aussi. Enfin, tous ces trucs-là, on les retrouve dans toutes les séries américaines. Mais quelque chose, tout d'un coup, devient assez troublant. D'abord, il y a effectivement le cadre qui est assez majestueux et exceptionnel. C'est des lacs, c'est des forêts. C'est un climat, quand même, qui est très exceptionnel. Une langue norvégienne aussi qui est assez déroutante, mais c'est pas seulement ça bien sûr. Moi ce qui m'a intéressé, c'est que plutôt que de faire comme dans toutes les séries américaines matinées de super-héros, c'est-à-dire associer l'adolescence aux mutations, quelles qu'elles soient, et qui sont souvent des mutations physiques, ils associent l'adolescence à des vraies interrogations, des vraies questions qui sont très reliées à la jeunesse actuelle, puisque ce sont des interrogations sur la crise climatique, sur la responsabilité des aînés par rapport aux plus jeunes et la façon dont les jeunes se réapproprient ces questions et en font un véritable combat. Et je trouve ça très pertinent d'avoir associé ce folklore, je dirais, scandinave, nordique, puisque ça reprend les géants, les dieux, Thor, puisque le jeune Magne va découvrir son identité, ce qui est une vraie problématique adolescente, mais son identité qui est en fait une identité de dieu ou de super-héros. Et je trouve ça assez fin d'avoir non pas seulement associé ça justement au côté ado, mais d'avoir associé ça à une vraie culture. Évidemment, comme ça se passe en Norvège pour nous, petits Français, ça sonne d'autant plus juste. C'est pas la Suède, c'est pas Greta Thunberg, mais elle est quand même citée. On la voit à plusieurs reprises, citée d'une façon ou d'une autre, notamment par le biais d'une jeune militante écologiste qui l'a sur
son...
aux cheveux bleus. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt fin et plutôt réussi. Et finalement, je me suis rendu compte que je m'étais attachée non seulement au personnage, mais aux problématiques, à la façon très intelligente dont il s'était approprié ces problématiques.
Je suis entièrement d'accord. Benoît Legan, vous qui, il y a longtemps, avez découvert votre identité de demi-dieu,
bien sûr.
On ne précisera pas lequel, bien évidemment. Qu'avez-vous pensé de Ragnarök ?
Alors, pareil, plutôt bonne surprise, même si j'ai quelques réserves. Déjà, par rapport à la beauté des paysages, on est déjà pris par ça. Ça, c'est évident. Il y a un travail sur la lumière, je trouve, qui est magnifique,
très
très belle. Adam Price sait aussi ce que c'est que la bouffe, et je trouve qu'il filme merveilleusement bien les plats, la viande saignante. Enfin voilà, il y a quelque chose.
C'est un peu ragoûtant quand même.
Ah non, mais quand à un moment donné ils sont dans les montagnes et qu'ils préparent, et puis à un moment donné ils sont invités dans le manoir, il y a tout un grand repas à la table. Là, c'est un festin. C'est chaque plat est bien positionné, mis en scène, je trouve. Alors tout ça, visuellement, ça marche. Au début, on a cette étrangeté, cette famille qui arrive, cette mère et ses deux fils, et on se dit, oula, on serait presque dans un univers à la Twin Peaks, vu les vieux qui traînent là, un peu étrange. Et puis, moi, voilà, le problème, c'est que l'étrangeté de cette petite ville a tendance à disparaître tout doucement pour quelque chose de somme toute assez classique. On voit très vite que la famille de méchants sera la famille de méchants. Ils sont hyper archétypaux, caricaturaux. Et je regrette presque, au fond, que on n'est pas donné à un Fabrice Gobert, par exemple, qui avait, avec Simon Werner a disparu, ou avec Les Revenants,
la su série Les Revenants, oui.
filmer et raconter l'étrangeté tout en étant dans le réel. Là, je trouve que par moment, on est complètement dans le réel, et c'est merveilleux, et puis par moment, on est dans le merveilleux, et ça l'est plus.
On est un peu dans la comédie aussi, je pense que la famille des méchants, c'est quand même ceux qui sont les plus caricaturaux, je pense les moins réussis, même s'il y a quand même un trouble par rapport notamment à leur apparence, que moi je trouve ça très intéressant, enfin bon, j'en dis pas davantage, mais ils sont extrêmement beaux, et surtout, ils ont les mêmes visages depuis des siècles et des siècles, ça je trouve ça assez étonnant. Mais c'est vrai que c'est plus, je pense que c'est une partie plus comédie-comique.
Ah va.
Mais moi je suis en terre du milieu là, je sais. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait ma tasse de thé, comme pour Ariane, même si je trouve que la série est très accessible, qu'elle a parfois du cachet, que l'installation de l'intrigue dans ce paysage enneigé amène une dimension et une atmosphère particulière et que ça ouvre à des questionnements d'actualité. Après, si je devais résumer les choses, je dirais que c'est plus dans la veine de la saga Twilight, presque plus que Riverdale. On retrouve les mêmes codes esthétiques, les mêmes marqueurs, la même musique pop-rock, les ralentis, les chorégraphies, c'est un peu moins kitsch et tape à l'œil, ouais. bien sûr, mais c'est le même délire, même dans la composition des personnages, adolescents et adultes. Il y a des variations autour de ce thème. C'est une formule un peu traditionnelle, quoi. Voilà. C'est pas mal, je trouve, mais pas tout à fait original. Après, c'est vrai que c'est un programme populaire à destination d'un public adolescent qui fait fusionner effectivement drame adolescent, fable écologique et folklore régional. Et je trouve que tout s'emboîte quand même relativement bien. C'est quand même une série dite fantastique et on voit pas de super-héros en collant. Il n'y a pas de corps exagérément musclé.
Un tire-grès avant?
Absolument pas, mais plutôt un jeune homme, voilà, qui a tout de l'anti-héros, qui n'est pas le plus populaire du lycée, mais qui attire l'attention par ses facultés nouvelles. Et c'est évidemment une série conduite comme un récit initiatique, quoi, au milieu des fjords, avec au cœur de tout ça la question du bien et du mal. Et face à Magne, voilà, c'est ce qu'on a dit, la série développe tout un tas d'antagonistes un peu coriaces, mais qui sont un peu caricaturaux. Oui. Après, ce que je trouve intéressant, c'est que évidemment la fable écologique a tout son sens, on le disait, et ça m'a évidemment fait penser à Winter is Coming, hein. J.R.R. Martin et Game of Thrones avaient déjà prévenu. Là, voilà, on y est.
Voilà, nous avons parlé de Ragnarok sur Netflix, diffusé depuis le 31 janvier.
It's oh so still. Over and
Voilà, c'était Björk, la chanteuse hyperactive, hein, c'est le moins que l'on puisse dire, qui nous invitait à un tout petit peu de tranquillité. C'est ironique. It's so quiet. Elle qui hurle tout le temps dans le micro, moi, ça me fait toujours rire. Ah, bah oui, j'ai le droit de dire ce que je pense quand même. Donc, en 1995, Björk reprenait ce tube de 1951 créé par Betty Hutton. Et allez, je l'admets, elle le reprenait quand même plutôt bien.
France Inter. Une heure en série.
Et c'est le moment du conseil littéraire. Nous venons de parler de légendes peut-être de fin du monde et je vous recommande fortement la lecture de La mort du soleil de Yann Lanquier aux éditions Philippe Piquet, spécialiste dans les éditions de livres asiatiques, chinois, japonais, évidemment. C'est le récit d'une nuit étrange, probablement prémonitoire d'une apocalypse à venir. Nous sommes dans un village chinois atteint d'une épidémie de somnambulisme. Une léthargie exutoire qui se met peu à peu à libérer les habitants qui s'affranchissent des frontières déjà fort ténues de la morale, de la loi, des convenances et de la culpabilité. Mais très vite, les corps épuisés s'effondrent les uns après les autres. Les morts se comptent par dizaines, meurtres ou suicides. Les cadavres jonchent le sol. Pour raconter cette nuit où tout bascule, où tout sombre, il faudrait un écrivain, une plume, un souffle lyrique. Ça tombe bien, Yann Lanquier, l'auteur romancé, le double romancé de l'auteur de ce livre, vit justement dans le village, mais il ne veut plus rien écrire, il n'en a plus ni la force, ni l'envie, ni l'inspiration. Alors, pour immortaliser la folie qui gagne les hommes, pour s'en faire l'écho, le jeune Yann Lanquier doit endosser le rôle de conteur. Considéré par beaucoup comme l'idiot du village, il va devoir trouver les mots pour décrire cette folie et ce fléau qui s'empare des hommes. Un roman fantastique, politique, picaresque et ubuesque qu'aurait certainement adoré Bulgakov, l'auteur du Maître et Marguerite. Une fable hypnotique, cauchemardesque et flamboyante, portée par la langue obsessionnelle, sinueuse et dantesque de cet écrivain chinois, prose magistralement retranscrite, il faut le dire, par le talent de sa traductrice Brigitte Guilbeault. La mort du soleil de Yann Lanquier aux éditions Philippe Piquet. Et c'est l'heure du troisième débat avec Il a déjà tes yeux sur France 2 à partir du 12 février. Nous sommes un petit peu en avance. 6 épisodes 2017 sortis en salle de Il a déjà tes yeux. Film éponyme signé Lucien Jean-Baptiste, l'histoire d'un couple en quête d'adoption composé de Paul, martiniquais, et de Sally, d'origine sénégalaise, qui se voit confier le petit Benjamin à un bébé blond comme les blés.
Coucou.
Ma petite maman.
Bon, allez, allez, tout le monde nous attend là.
Allez, on y va, la famille à l'occasion.
Paul, Salimata, comment avez-vous vécu cette adoption?
Du bonheur. Du bonheur. De toute façon, on a toujours rêvé d'être parents, alors.
Ça vous a jamais fait peur d'avoir un enfant noir, un enfant blanc?
Mais au pays, là-bas, nous, on a pensé que c'était de la plaisanterie. Mais non!
C'est-à-dire que le mec, il veut recréer des liens qui n'existent pas et qui n'existeront jamais.
Tu veux venir dîner avec nous, s'il te plaît?
Bah, oui.
Non mais attends, Paul, qu'est-ce que j'ai fait?
Je me disais, comme papa a revu son père, ce serait marrant que moi aussi je retrouve mes vrais parents, non?
Tu parles de tes parents les blancs.
Ouais.
Pourquoi tu m'as pas dit qu'il allait partir?
Voilà, le film fut un gros carton en salle avec plus d'un million de spectateurs, d'où l'idée sans doute de décliner ce succès en série télé. La bonne idée est ici d'avoir choisi de faire une suite à cette comédie familiale. On ne décline pas le film en série, mais on continue. Benjamin a grandi de manière alors très express, hein, puisque le film sort en 2017, il a 6 mois. Là, il a déjà 15 ans, ou presque en tout cas. Mais bon, bref, ce sont les lois et les bonheurs aussi de la fiction. Et entre-temps, ses parents lui ont offert Noé, un petit frère biologique d'un an, son cadet. Deux exacts contraires, on ne peut pas faire mieux, qui cohabite joyeusement dans une maison du bonheur jusqu'au jour où débarque le père de Paul, un géniteur affable et mythomane que Paul n'a pas vu depuis des années et qu'il rechigne à accueillir. Un retour inopiné et peu désiré qui va donner l'envie à Benjamin de retrouver à son tour ses parents biologiques. Une comédie sociétale sur les familles que l'on dira composées. À un moment, on parle de famille vanille-chocolat, que je trouve assez drôle d'ailleurs, unie par les liens du sang ou pas, et où l'on retrouve intact tout l'humour tendre et humaniste de Lucien Jean-Baptiste, auteur, interprète et réalisateur réalisateur, entre autres, de La Première Étoile et de Dieu Merci au cinéma. Pour cette série, il a collaboré avec son complice, Sébastien Mounier, auteur de Ad Vitam, oui, et du film moins recommandable, on va dire, C'est quoi cette mamie. Et au casting, on retrouvera avec joie Aïssa Maïga, que l'on avait croisée la semaine dernière dans Escale Fatale, et qui est toujours aussi magnifique, à la fois dans le comique ou dans la tragédie, Lucien Jean-Baptiste et Arié Elmaleh. Je crois que quelqu'un s'est laissé à glisser quelques petites larmes en regardant les 6 épisodes de Il a déjà tes yeux, Benoît.
Moi, j'ai été complètement conquis. Au départ, on regarde ça comme la série du mercredi de France 2, familiale, somme toute assez classique. On se dit, ah, ça fait du bien, après Fête des Gosses, d'avoir quelque chose de beaucoup plus fin. Mais ça, c'est quand on voit...
Je suis ravi de vous l'entendre dire.
C'est quand on voit les deux premiers épisodes, où on sort des deux premiers épisodes en disant, bon, on est dans le fais pas ci, fais pas ça, à la sauce Lucien Jean-Baptiste, et ça fait du bien. Il y a un mélange d'humour, de tendresse, de bienveillance. Bref, tout ça fonctionne très bien. Et puis, plus on avance dans la série, plus ça garde sa drôlerie, mais ça devient de plus en plus tendre et de plus en plus émouvant, avec un final, moi, qui effectivement m'a beaucoup touché, au point que je me suis dit, je n'ai pas du tout vécu la même chose, mais il réussit à nous faire une histoire extrêmement universelle à travers cette famille de Bobo Black, c'est comme ça qu'il se présente dans la série, et ça, c'est très très rare à la télévision française de partir d'une famille black et d'en faire de l'universalité. Mais pourquoi donc il s'était interdit de faire ça? Alors Lucien Jean-Baptiste réussit parfaitement. La série nous montre que être noir, c'est au pluriel. On n'est pas totalement pareil quand on est martiniquais, quand on est ivoirien, quand on est camerounais, sénégalais, enfin bon bref, que c'est pas la même chose. Il joue sans cesse sur les idées reçues, les clichés. Il y a ce père de famille qui parle comme un griot jusqu'à un moment donné où dans la série, il va y avoir une réplique où son fils lui dit « arrête avec tes paroles de sachant africain ». Enfin, tout est toujours déjoué avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'humour. Vraiment, c'est une grande réussite. Et les comédiens sont parfaits.
Nous sommes d'accord. Avakaen.
Ben, je ne dois avoir aucun cœur, hein, visiblement.
Mais non, n'en tirez pas des conclusions hâtives comme cela.
Non, mais évidemment, je rejoins Benoît sur un certain nombre de points. C'est-à-dire que je me réjouis que la carte de la diversité soit jouée par France 2 en prime time. Mais malheureusement, je n'arrive pas à trouver à ce programme, certes, plein de bonnes intentions et de bonne volonté, de réelle qualité artistique. Et si l'on parle franchement, j'aime les séries qui ont quand même un peu d'ambition de mise en scène. Et là, la grammaire est très basique, hein. C'est du sujet verbe complément, pour le dire simplement. Ce n'est pas très engageant. Et dès la séquence d'ouverture, qui est un genre de réunion entre parents où on voit Sally et Paul rembobiner l'histoire, nous rappeler ce qui composait l'intrigue principale du film, dont la série est donc le prolongement, eh bien cette scène, je trouve qu'elle donne le ton. C'est très scolaire, c'est très formaté, c'est lisse, c'est sans imagination, et je trouve ça bien dommage. Ça ne m'a pas convaincue aussi du côté des thématiques abordées, parce qu'elles sont effleurées du bout des doigts, parce que tout manque de nuances, précisément, et de profondeur, qu'il s'agisse de la question de l'adoption, de la quête de Benjamin vis-à-vis de ses parents biologiques, la question de la rivalité au sein d'une fratrie métisse, celle de la filiation à travers les retrouvailles incongrues de Paul et son géniteur, Lazare, donc, qui est un peu le personnage chamboule-tout de cette série, le Deus Ex Machina, puis la question de la reprise d'une activité professionnelle aussi quand on est maman et quand on s'est arrêté de travailler à un moment pour élever ses enfants. Il y a tout plein de pistes narratives en fait qui sont amorcées mais qui sont exploitées à la va-vite, un peu comme dans un soap. Et je trouve ça vraiment dommage de ne pas avoir davantage soigné l'écriture, la réalisation. Et sur la direction d'acteur, je suis désolée, je ne vous rejoins pas tout à fait. Moi, je trouve ça un petit peu lourd, un peu théâtral, un peu artificiel. Et on saluait la semaine dernière la performance d'Aïssa Maïga, voilà, tout à fait remarquable dans Escale Fatale. Et là, je trouve que c'est un peu boiteux. On est en sous-régime.
Oh non, je ne suis pas d'accord. Voilà. Moi, je trouve qu'elle est très bien. Et l'enfant, Benjamin, moi, je pense que ce comédien-là, il va falloir le suivre.
J'avais envie, hein, vraiment de croire aux capacités de Lucien Jean-Baptiste à faire de cette série quelque chose de plus personnel, original et tendre, et malheureusement, bon bah voilà, j'ai pas trouvé mon bonheur.
Bon, comme on dit au tennis, la balle est au centre, donc Ariane, à vous de départager ce duel entre Benoît et Ava. Il a déjà tes yeux.
Oui, vous a-t-il effectivement, séduit. Je suis au centre. Voilà, c'est-à-dire que j'ai trouvé ça plutôt sympathique.
Vous êtes Bayrou cette semaine.
Voilà. Ouais, c'est ça, très bien. Bayrou, il existe encore donc.
J'en ai entendu vaguement parler la semaine dernière.
Ah, mais c'est un homme du Sud-Ouest, c'est pour ça que ça fait beaucoup rire notre ami Benoît. Comment dire, je trouve ça gentil, je trouve ça pétri de bons sentiments.
Oh, c'est pire, je crois.
Le message, c'est l'amour sauve de tout, y compris les situations les plus douloureuses. et improbable. Donc le message, évidemment, qui fait du bien, c'est ce qu'on appelle au cinéma un feel-good movie. Je trouve ça pas du tout désagréable. Je rejoins Benoît sur Aïssa Maïga. Moi, je la trouve royale, quoi qu'elle fasse. Oh. Mais vraiment, je trouve qu'elle a une présence, elle a une technique de jeu aussi. Hein. Oui. Et c'est la seule, à mon avis, qui l'est vraiment parfaitement et qui la maîtrise, notamment dans la comédie où c'est quand même super dur. Et puis, bon, c'est un message de tolérance. Donc évidemment qu'on ne peut que souscrire à ce genre de choses. Après, moi, je trouve ça un peu appuyé. Les invraisemblances. Déjà, la famille, il est fleuriste. Elle est au chômage. Ils ont une maison en dans la région parisienne. Je ne sais pas combien ça coûte, mais à mon avis, c'est totalement improbable.
C'est pas faux.
Voilà.
Mais souci du réalisme n'a pas atteint les
voilà,
auteurs.
C'est joli, hein. En même temps, c'est fait passif, c'est pas ça. Version noire, hein, on est d'accord. Hein. Et puis, je trouve aussi que les ressorts sont un peu usés du scénario. C'est-à-dire, par exemple, cette façon de vouloir absolument inverser les regards, je trouve ça super bien au départ, mais le côté la famille, il y a un garçon noir, un garçon blanc, donc le garçon noir, évidemment, pour déjouer tous les clichés, c'est celui qui une tronche, qui travaille bien à l'école, et le petit garçon blanc, bien sûr, c'est le rebelle, c'est celui qui trouve pas sa place. Donc voilà, je suis entre les deux. Je pense que je me suis laissée séduire par les acteurs et par le jeu, mais moins peut-être par la dramaturgie de la série.
À vous de vous faire une idée à partir du 12 février sur France 2. Il a déjà des yeux de Lucien Jean-Baptiste.
Sur l'envers de l'enveloppe est inscrit tout en bas écrit en tout petit.
Majuscule royale et discrète.
J'ai fait une drôle de tête, un drôle de soupir. En la retournant de l'autre côté, un nouveau message à décrypter.
Mets-lui des ailes, c'est une déesse.
À cet instant fébrile, j'ai ouvert. Et c'est là que j'ai découvert. Est-ce l'être infini qui me l'écrit? La lettre infinie que je relis.
Lettre infinie, infinie.
Infiniment et pour la vie. Lettre infinie que je suis.
Lettre infinie. Lettre infinie, infinie.
C'est bien parce que ta bouche a une fausse note que c'est la perfection divine.
Lettre infinie.
Quand ça frotte, quand ça trébuche, que l'on s'incline.
L'être infini, infini.
Voilà soudain à quoi j'ai pensé devant cette lettre immaculée. Est-ce l'être infini qui me l'écrit? La lettre infinie que je relis.
L'être infini, infini.
Infiniment et pour la vie.
Lettre infinie de M, artiste, auteur unique, complet, inclassable à la sensualité féline et hypnotique. Moi, je suis assez client quand même de M, y compris quand il est sur scène. Ça tombe bien, il sera le 22 avril au Printemps de Bourges, puis en tournée en mai à Bordeaux, Nantes, Rennes ou encore Lille.
France Inter, une heure en série.
C'est le moment où je vous recommande une petite pépite inédite, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore diffusée sur les chaînes françaises, mais on croise les doigts. On a déjà quand même conseillé pas mal de choses qui sont devenues effectivement des séries. Donc voilà, vous m'envoyez un chèque quand vous voulez. Ouais, absolument. Alors, je vous recommande cette semaine Dead Water Fell sur Channel 4, un polar anglais sur Channel 4. Déjà, effectivement, ça sent bon. Hein. On y va avec une certaine curiosité et presque envie d'aimer. Tout commence par un incendie tragique. Une mère et ses petites filles périssent dans les flammes. Seul survivant, le père. Une fois le choc passé, l'enquête commence. Beaucoup voudraient voir dans le rescapé un homme froid et cassant, brusque et impassible, le coupable idéal. Mais beaucoup d'indices convergent vers la mère, une femme dépressive, absente, souvent éthérée. Seul un jeune flic continue de soupçonner le mari. Le seul souci, c'est que ce policier ne suit pas que son flair pour mener l'enquête. Il est également mu par une soif de revanche, puisque sa seconde épouse avait eu une affaire avec le principal suspect. Ça, c'est pas bien. Voici quelques points de départ de ce polar tordu qui, outre son intrigue, reconstitue par un jeu habile de flashback la lente déliquescence d'un couple et évoque les affres intimes de la maternité. Comme souvent dans les séries britanniques, le scénario s'intéresse aussi à la vie soudainement bouleversée et malmenée d'une petite bourgade sans histoire. Les langues se délient, se font fielleuses, les regards se chargent de doutes réprobateurs et les fausses accusations se multiplient. Et soudain, la ligne claire de la vérité ne cesse de se brouiller et de s'emmêler, ramenant à la surface le pire de nos secrets et de nos instincts. Si vous avez aimé Broadchurch, c'est peu dire que vous risquez d'être accro à ce thriller arachnéen écrit par Daisy Coleman, qui est autrice sur Grantchester et Eastenders et qui signe pour une fois une série en solo. Cerise sur le gâteau, l'interprétation tout en ambiguïté sombre et insaisissable de David Tennant. Ah. Le merveilleux David Tennant, remarquable comédien qui fut sans doute l'un des meilleurs Doctor Who, le héros de Broadchurch, d'où la référence, ainsi qu'un élégant ange satanique dans Good Omens qui est toujours diffusé sur Amazon Prime. Donc voilà, les chaînes, je vous supplie d'acheter Dead Water Fell sur Channel 4. Promis, je ne prendrai aucune dividende sur le succès.
Mais ça donne envie.
Mais c'est une série que l'on espère vraiment voir traverser la Manche rapidement. Et c'est l'heure du plateau télé. Nous avons recommandé déjà pas mal de choses cette semaine, mais c'est à vous de nous dire encore ce que l'on peut aller voir sur les chaînes. Et Ariane, vous avez décidé de défendre, à juste titre, je l'espère, la 8e saison de Homeland.
Oui, bah, enfin, la 8e et ultime saison de...
Surtout ultime, moi, qui me dirais chouette.
Ah ouais, d'accord. Alors moi, c'est un grand hélas, parce que c'est vraiment une de mes séries préférées. Alors, Homeland déploie quand même ses épisodes depuis septembre 2012 en France. Je pense qu'il faut peut-être faire une petite mise à jour.
Rapide.
Voilà, donc pour mémoire, la saison 7 s'est achevée sur la libération de Carrie. Carrie Mathison, c'est cet ex-agent bipolaire de la CIA, qui a été libérée après des mois de captivité dans un goulag. Et on la retrouve, je fais évidemment pas de spoil, donc je démarre juste la saison 8. Elle est en piteux état, elle a quand même beaucoup souffert.
Ça fait 8 saisons qu'elle est en piteux état, quand même.
On lui a supprimé les médiocres pendant plusieurs mois dans son goulag.
Très, très piteux.
Voilà. Donc voilà, mais quand même, son mentor, Saul, donc qui est cet agent fédéral qui a toujours besoin d'elle pour désamorcer les pires des situations. Là, il la renvoie quand même en Afghanistan parce qu'il a des gros soucis avec les talibans. Parce que oui, à chaque fois, c'est des enjeux quand même lourds. Hein. Voilà. Donc hop, contre l'avis des médecins, Carrie se retrouve là-bas. Et en plus de ça, elle est soupçonnée de travailler pour les Russes. Donc ça fait quand même beaucoup d'enjeux narratifs en même temps. Pourquoi ? Moi, je pense qu'il faut vraiment s'immerger à nouveau dans cette série. D'abord parce que moi, je pense que cette série a défoncé tous les stéréotypes, notamment en matière de représentation du féminin et d'une héroïne. C'est une espionne qui est haut de gamme et bipolaire, donc complexe. Elle a bouleversé, moi, je trouve vraiment tout ça sur les écrans. C'est une des premières, en tout cas. C'est pour ça que moi, je l'aime beaucoup. Il faut aussi remercier son interprète Claire Danes, ou Danes, on dit. Alors, bien sûr, il y en a qu'elle agace profondément, parce que c'est vrai qu'elle pleure, hein, Claire Danes, hein. Mais en même temps, il y a de quoi, voilà. Ensuite, pourquoi j'aime beaucoup Homeland? Parce que je trouve qu'il y a une acuité politique rare de cette série. C'est-à-dire qu'elle chronique presque en live, quand même, il faut bien le dire, la parano américaine de ces 8 dernières années. Que ça soit au sujet du terrorisme islamiste, c'est là-dessus que ça a commencé, que ça soit la montée de la droite dure, que ça soit aussi la montée des fake news, tout ça est documenté dans cette série et de façon extrêmement habile, même quand elle se trompe, puisque dans la saison 7, il parie sur le fait que c'est une femme qui va être élue présidente des États-Unis. Bon, c'est raté, mais cela dit, ils exploitent extrêmement bien cette situation finalement. Voilà. Donc c'est une narration au long cours que moi je trouve impeccable de densité, de profondeur, en dépit évidemment de quelques ressorts dramatiques assez usés. Bref, moi, je pense que vous vous rendrez sans moufter.
Mais je vous ai presque donné envie d'aller voir la 8e saison. Rappelons, puisqu'on a parlé de Our Boys aujourd'hui, que c'est une série israélienne à tout film qui était à l'origine.
Tout à fait. Et c'est sur Canal+.
Non, c'est fini. Oui, ça va, d'accord. Très bien, vous avez le droit. Allez, Benoît. Baron Noir, vous ne parlez que de vous, en fait, dans le plateau télé.
N'importe quoi.
Mais tout le monde sait qu'on vous appelle comme ça dans les couloirs de Radio France.
Baron Noir, donc série de Canal+, série dont arrive la saison 3, donc sur la chaîne cryptée. Baron Noir, série avec Kad Merad, écrite par Éric Benzekri, ancien conseiller pour le Parti Socialiste, donc la vie politique y connaît. Et donc, on résumait des épisodes précédents, dans les précédentes saisons de Baron Noir, on suivait donc Kad Merad, ce membre du Parti socialiste, pris dans les affaires. Donc la première saison, c'était en gros le Parti Socialiste, un commentaire ou une analyse ou une réflexion en fiction sur la gauche et les affaires. La deuxième saison, c'était l'explosion de la gauche face notamment à la montée du Front National, l'émergence d'un nouveau mouvement, incarné par une femme, qui était la première femme, c'était pas le premier jeune président, enfin c'était la première femme présidente, une sorte de LREM qui s'appelle la France Unie.
Divine Anna Mouglalis.
Voilà, Anna Mouglalis. Et nous retrouvons aujourd'hui, donc en troisième saison, le pouvoir centriste, bien évidemment, est en situation compliquée. Il y a des mouvements populistes, certes toujours le Front National qui est là, un mouvement proche de la France insoumise, incarné par Michel Vidal, excellent François Morel, qui joue une sorte de Mélenchon vraiment chouette, et puis le mouvement des Gilets jaunes, mais qui ne s'appelle pas le mouvement des Gilets jaunes. Et c'est là où, à nouveau, cette série est vachement brillante, c'est-à-dire qu'elle, en déplaçant tout légèrement, juste avec des noms de partis différents, mais en gardant les mêmes médias, en gardant quand même le Parti Socialiste, en gardant les noms des partis, je trouve qu'elle arrive à nous montrer comment la politique pourrait être. Ce n'est pas ce que c'est ce que ça pourrait être. Et je trouve ça hyper intéressant et hyper malin à voir. Je vous laisse regarder cette saison 3, j'en dévoilerai rien, mais vraiment on se dit que Macron, il aurait peut-être pu gérer les Gilets jaunes, peut-être autrement, ou peut-être que les autres partis auraient pu s'occuper des Gilets jaunes aussi autrement, ou les récupérer peut-être encore autrement. Enfin, c'est vraiment malin et c'est vraiment bien.
Merci beaucoup Benoît. Baron Noir sur Canal. Ava, vous avez décidé de défendre une série assez peu connue d'ailleurs, qu'on n'a presque pas vue, qui est passée, j'allais dire inaperçue, ouais. Oui, voilà, alors que ça a été un gros succès aux États-Unis, mais ici, par exemple, Friends,
absolument.
Jamais entendu parler.
Alors, on peut retrouver Monica, Phoebe, Rachel, Joey, Ross et Chandler et le Central Perk, évidemment. Tous les soirs de la semaine à partir de 20h sur TFX, quel cadeau. Petit rappel, cette série culte pour plus d'une génération a été diffusée entre 1994 et 2004 sur la chaîne américaine NBC et a été créée par Martha Kaufman et David Crane, également papa de Dream On, super série du début des années 90 qui était truffée d'extraits de films noirs américains absolument merveilleux. Friends, c'est 10 saisons, 236 épisodes qui ont tous pour titre celui qui gagnait au poker, celui qui a oublié un bébé dans le bus, celui qui avait la chaîne porno, un générique inoubliable, I'll be there for you, je ne le chanterai pas. Des éclats de rire, évidemment, les tournages avaient lieu en public et les rires des spectateurs étaient gardés au montage. Près d'une trentaine d'épisodes de la série ont dépassé la barre des 30 millions de téléspectateurs, donc c'est quand même pour vous dire le succès immense de Friends. Récemment, la série a fait l'objet de quelques articles qui portaient sur elle un regard à charge, pointant du doigt son irréalisme ou son rapport frileux à la diversité ethnique comme sexuelle. Mais si c'est vrai que nos 6 amis new-yorkais sont tous blancs et hétéros, certains épisodes montrent parfois les limites de ce monde favorisé qu'ils habitent et confrontent certains personnages à leurs préjugés bourgeois. Bref, tout ça est très sérieux, alors que Friends est avant tout une série follement drôle, interprétée par une bande d'acteurs sensationnels sans qui ce programme n'aurait pas la même saveur, hein, avouons-le. Je suis profondément attachée à ces personnages avec qui j'ai grandi et qui tous se complètent. Ils me font rêver, ils m'ont émue, ils m'ont fait hurler de rire et apprendre l'anglais aussi. How are you doing, Xavier Le Harper? J'avoue ne pas pouvoir résister à la tentation de voir un épisode quand l'un d'entre eux me passe sous le nez, parce que Friends a un charme irrésistible, comme Phoebe et sa chanson Tupu le chat, et oui, un must. Donc on peut retrouver les copains tous les soirs de la semaine sur TFX dès 20h, et si vous ne riez pas, faut aller consulter, je peux plus rien faire pour vous.
Non, c'est la série Doudou par excellence, et merci de nous avoir signalé sa diffusion sur TFX. Merci pour cet excellent plateau télé, merci pour cette excellente émission à laquelle Ava Kahn, Ariane Allard et Benoît Lagan ont participé avec leur talent et leur impertinence. Une heure en série, c'est fini pour cette semaine. Nous vous avons recommandé Our Boy sur Canal+, Ragnarok sur Netflix et Il a déjà tes yeux sur France 2. Et la semaine prochaine, nous évoquerons H24 sur TF1, une nouvelle série médicale mais française, et Lock and Key sur Netflix. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez voter pour le top des auditeurs. Il vous suffit d'aller sur le site de Une heure en série et vous votez pour votre série française et votre série non française, étrangère, mais pas que américaine, bien évidemment, préférée. Tous les épisodes de cette émission sont évidemment disponibles en podcast sur le site d'Une heure en série. J'aurai le plaisir de vous retrouver au Masque et la Plume très prochainement, présenté par Jérôme Garcin. N'hésitez pas à nous envoyer, bien sûr, du courrier. Une heure en série a été réalisée cette semaine par Marie-Annick Rimbaud. La programmation musicale assurée par Muriel Pérez, préparée avec Amel Caldi et aujourd'hui à la technique, Patrick Henry.